VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Michel Joseph. Au sommaire ce 11 avril 2016.
Élection présidentielle au Tchad, poursuite du dépouillement qui a débuté hier soir après la fermeture des bureaux de vote.
Et les dépouillements se poursuivent également aux Comores pour la présidentielle dont les premiers résultats ne sont pas attendus avant mercredi.
Bientôt, l'intégration d'ex-combattants dans l'armée malienne, conformément à l'accord de paix avec les groupes armés.
Ceux qui vont être là ne doivent pas souffrir d'une quelconque procédure judiciaire pour crime de sang ou pour narcotrafic. Et puis, ne doivent pas faire partie des fichiers de ceux qui sont identifiés comme étant des terroristes.
Le ministre de la Défense, Tiemane Hubert Koulibaly.
En Guinée, les partis de l'opposition républicaine ont suspendu leur participation aux activités de la commission électorale.
Grande pénurie de carburant à Lagos, capitale économique du Nigeria.
Les troupes syriennes s'apprêtent à reprendre Alep avec l'aide de l'aviation russe.
Les chefs de la diplomatie du G7 ont rendu hommage aux 140 000 victimes de la bombe atomique américaine larguée sur Hiroshima le 6 août 1945.
Et avant la Minute Éco et les sports, voici le journal.
Élection présidentielle au Tchad. Après le vote des militaires et nomades samedi, plus de 6 millions d'électeurs ont accompli leurs droits civiques dimanche. Au total, 13 candidats sont en lice, dont le président sortant Idriss Déby Itno, qui brigue un cinquième mandat. Le point avec notre correspondant André Kodmajingar.
Le scrutin de ce 10 avril s'est déroulé dans le calme, l'Angoma Hedotai, devant le bureau de vote de N'Djamena, malgré que cette élection se soit tenue sur fond de crise sociale jamais connue sous le règne de Déby au pouvoir depuis 26 ans. Certains bureaux de vote dans les quartiers favorables à l'opposition s'ouvrent non seulement avec retard, mais aussi des matériels, notamment les bulletins ne sont pas déposés en quantité suffisante. Des consignes fermes ont été données aux militaires le 9 avril dernier de voter pour le président Déby. Ceux qui ont porté leur choix sur un autre candidat sont arrêtés. Été mise en prison. Témoignage de l'épouse d'un garde nomade.
Mon mari était parti pour voter et il n'est pas revenu à la maison. Ce matin, je suis obligé de partir au camp pour vérifier qu'est-ce qui ne va pas. Et ses collègues m'ont expliqué qu'il a voté un opposant. Donc c'est pour cela qu'on l'a arrêté.
Le vote s'est déroulé sous haute surveillance sécuritaire car la ville de N'Djamena est prise en otage par les forces de défense et de sécurité. Le président sortant Idriss Déby Itno, qui serait favori à cette élection, appelle ses adversaires à respecter le verdict des urnes alors que le résultat ne sera pas connu 15 jours après. André Kodumajingar N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
Aux Comores, le dépouillement se poursuit après un vote qui a été marqué par des incidents à Anjouan, l'une des trois îles du pays. Il s'agit de départager les trois candidats au second tour de la présidentielle. Des précisions avec Jean-Roger Bion.
Le dépouillement a débuté dès la fermeture des bureaux de vote. Quelques 300 000 Comoriens étaient appelés aux urnes dans les trois îles qui constituent l'archipel, à savoir Mouéli en juin et la Grande Comore. Le candidat du pouvoir, Mohamed Ali Swali, dit Mamadou, fait face à l'ex-putschiste Azali Assoumani qui avait gouverné le pays de 1999 à 2006 et à Mouigny Baraka, gouverneur de la Grande Comore. D'après la Constitution, la présidence tournante revient cette fois-ci à la Grande Comore. Le colonel Assoumani et Mamadou ont enregistré de précieux soutiens. Mais le gouverneur Mouigny Baraka, moins connu sur les deux autres îles, veut croire en ses chances. Sur l'île d'Anjouan, des partisans de l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi, qui soutient le colonel Assoumani, ont perturbé le vote et même cassé des urnes. Les premiers résultats ne sont pas attendus avant mercredi.
Pénurie de carburant à Lagos, capitale économique du Nigeria. Pourtant, le pays est le premier producteur de pétrole du continent. Des détails avec Idriss Fall.
La ville de Lagos est étouffée par de longues files de voitures et des embouteillages monstres. Tout le monde cherche du carburant. Les chauffeurs les plus courageux passent la nuit à faire la queue devant les stations d'essence. Les vendeurs à la sauvette agitent des bidons jaunes vers des clients plus riches ou plus désespérés, mais prêts à débourser davantage pour obtenir le liquide rare devenu subitement précieux. Le litre d'essence sur le marché noir a atteint 250 naira, soit trois fois le prix officiel à la pompe. Après des années de mauvaise gestion, les raffineries de l'État ne travaillent qu'à une fraction infime de leur capacité. Les cours du pétrole ont chuté de 70%, privant le premier producteur de brut du continent de sa principale source de revenus. La croissance dégringole en même temps que la monnaie locale Naira. Le ministre du pétrole, Emmanuel Kassikou, promet le bout du tunnel dans la deuxième semaine d'avril.
Un référendum de 3 jours pour la région du Darfour au Soudan commence ce lundi, malgré les préoccupations des États-Unis, estimant que cela risquerait de saper le processus de paix en cours. Le vote déterminera si la région gardera ses 5 États ou se formera en une seule entité avec une administration semi-autonome. On estime que 3 millions de personnes sont toujours déplacées en raison du conflit au Darfour. Dans un communiqué, le département d'État américain a déclaré que l'insécurité au Darfour et l'enregistrement inadéquat des Darfouris résidant dans les camps de personnes déplacées ne permettrait pas une participation suffisante.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les troupes syriennes préparent une opération pour la reprise d'Alep avec l'aide de l'aviation russe. C'est du moins ce qu'a affirmé hier le premier ministre syrien. Le point avec Jean-Roger Bion.
Wael al-Alki a reçu hier une délégation de députés et de sénateurs russes. D'après l'agence de presse Interfax, il a déclaré que Damas prépare une opération pour la libération d'Alep avec l'aide des alliés russes. Cette ville est divisée depuis 2012 entre des quartiers rebelles et des zones fidèles au régime de Bachar al-Assad. Une trêve avec les rebelles a permis aux troupes syriennes de se concentrer sur la lutte contre les djihadistes exclus de l'accord initié par Washington et Moscou. Ce cessez-le-feu est globalement respecté depuis le 27 février, mais les combats continuent contre le groupe État islamique et le Front al-Nusra, branche syrienne d'Al-Qaïda. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 19 membres du Front al-Nusra et 16 loyalistes ont été tués en 24 heures dans des combats sur plusieurs fronts dans le sud de la province d'Alep.
Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7, dont John Kerry, ont rendu hommage ce lundi aux victimes de la bombe atomique américaine qui a frappé Hiroshima en 1945 par une visite sans précédent au mémorial de la paix de la ville martyre japonaise. Une visite hautement symbolique et historique, le chef de la diplomatie américaine étant le tout premier responsable gouvernemental des États-Unis à se rendre à Hiroshima depuis la Seconde Guerre mondiale. Cela nous rappelle avec force et dureté que nous avons non seulement l'obligation de mettre un terme à la menace des armes nucléaires, mais que nous devons aussi tout faire pour éviter la guerre, a déclaré le secrétaire d'État américain. Les chefs de la diplomatie se sont ensuite rendus dans le parc du musée pour y déposer des gerbes de fleurs devant les noms des victimes du premier bombardement atomique de l'histoire, le 6 août 1945, ayant fait 140 000 morts.
Le médiateur de l'ONU au Yémen, Ismaël Ould Sheikh Ahmed, a salué la cessation des hostilités entrée en vigueur la nuit dernière et a exhorté les belligérants et la communauté internationale à rester déterminés à la soutenir. Des pourparlers de paix doivent reprendre le 18 avril entre le gouvernement et les rebelles chiites houthis.
Un général nord-coréen est passé au sud en 2015, devenant le plus haut gradé du Nord à faire défection, a annoncé lundi le gouvernement sud-coréen. L'identité de l'officier en question n'a pas été dévoilée, mais il était responsable des opérations d'espionnage visant Séoul au sein du Bureau général de reconnaissance nord-coréen, rapporte l'agence officielle sud-coréenne Yonhap.
Keiko Fujimori, la fille de l'ex-président Alberto Fujimori, est arrivée en tête du premier tour de l'élection présidentielle au Pérou avec 38% des voix selon des résultats partiels. Elle devrait affronter le 5 juin au deuxième tour l'économiste de droite Pedro Pablo Kuczynski qui a remporté 25% des voix, creusant l'écart avec la parlementaire de gauche Veronica Mendoza, crédité de 16% des voix.
L'économie en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco qui vous est présentée ce matin par Jacques Aristide.
Le port autonome de Dakar a choisi le groupe marocain Olmarcom pour la construction de 691 logements sociaux destinés à ses salariés. C'est Peacock Investments, la filiale sénégalaise du groupe immobilier, qui exécutera le contrat. Ces logements, situés dans la périphérie de Dakar, seront construits sur une période de 3 ans et comporteront 2 types de villas économiques sur une superficie de 150 mètres carrés. Les travaux sont prévus pour bientôt. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, a démenti le lancement d'un billet de 50 000 francs CFA à partir du 30 avril. Dans un communiqué, la BCAO relève que depuis le vendredi 1er avril, des articles en ligne ont annoncé la mise en circulation de cette coupure. Toutefois, cette information est inexacte, affirme la BCAO, qui appelle le public à la plus grande vigilance. Le Caire et Riyad se sont mis d'accord pour construire un pont sur la mer Rouge reliant les deux pays. Le projet a été dévoilé par le roi Salman d'Arabie Saoudite lors de sa récente visite en Égypte où il a eu des entretiens avec le président Abdel Fattah al-Sissi. Aucun détail n'a été donné sur l'emplacement exact du pont ni la date à laquelle devrait débuter sa construction.
Merci Jacques pour cette page économie. À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Bonjour Élisée. On commence par le football. Les 8e de finale aller des Coupes africaines des clubs. En Ligue des champions, coup de tonnerre avec la défaite du tenant, le tout-puissant Mazembe.
Oui, et le club de Lumumbashi pourrait bien sortir de la compétition dès ses 8e de finale. Les Corbeaux sont en tout cas condamnés à l'exploit au match retour à domicile, puisqu'ils ont été battus 2-0 par les Marocains du Wydad Athletic Club de Casablanca à Marrakech. C'est mal parti également pour le stade malien, défait 3-1 à domicile par les Zambiens de Zesco. Bonne opération par contre pour Enimba. Le club nigérian a fait un grand pas pour la qualification, sur un bel avantage de 3-0 devant l'Étoile du Sahel, grâce au triplé de Udo Umfom.
Pour les autres affiches, la SEC d'Abidjan rassure à la maison.
Les Ivoiriens l'ont emporté sans trembler 2-0 face aux Libyens d'Al Ahly Tripoli. Victoire également du Zamalek 2-0 devant l'Olympique Béjaïa. Match nul, 1-1 pour l'autre club égyptien, le National du Caire, sur le terrain des Tanzanais de Young Africans. Et puis 2-2 entre El Merriek et l'Entente de Sétif.
En Coupe de la Confédération, le FUS de Rabat a pris une sérieuse option sur la qualification.
Effectivement, une large victoire sur les Ougandais de Villa Sport Club 7-0. De quoi se mettre à l'abri avant le match retour. Les Marocains semblent très bien partis pour se qualifier pour la phase de poule. Ce que d'ailleurs les Angolais de Sagra Esperanza n'ont pas manqué en allant battre V Club de Mokanda à Brazza 2-1. Les Gabonais du CF Mounana se sont eux aussi rassurés après avoir dominé l'équipe Kairote ENPPI 2-0. Par contre, l'Espérance de Tunis s'est bien mis en difficulté puisque battu 2-1 par Azam. Bon résultat pour le CS Constantine. Les Algériens ont battu Missi El Makassa 1-0. Pour le reste, match nul 0-0 entre le club algérien MC Oran et le Kaoukab de Marrakech. Et puis les Zambiens de Zanaco ont été accrochés à domicile par les Tunisiens du stade Gabessien 1-0.
À présent, les éliminatoires de la CAN féminine Cameroun 2016 avec déjà 2 équipes qualifiées.
Exactement Nathalie, et il s'agit de la Guinée équatoriale et du Zimbabwe. Les équato-guinéennes et les zimbabwéennes ont composté leur billet suite à leur succès respectif face aux maliennes 2-1 et aux zambiennes 3-2. Et puis pour terminer, du basketball avec vous Nathalie, les résultats de la nuit en NBA, le championnat nord-américain de basketball.
Golden State a égalé le record de victoires en une saison établi en 1995-96 par les Chicago Bulls de Michael Jordan, avec leur 72e succès depuis fin octobre dimanche face à San Antonio, 92-86. Les Indiana Pacers se sont qualifiés hier pour les playoffs grâce à leur victoire devant les Brooklyn Nets, 129-105, qui prive du même coup les Chicago Bulls de la phase finale. Une victoire de Milwaukee contre Philadelphia, 109-108. Le Magic d'Orlando a perdu contre Miami Heat, 96-118. Et Toronto l'a emporté contre les Knicks de New York, 93-89.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Les Tchadiens ont voté en nombre hier et dans le calme pour élire leur président parmi 13 candidats, dont le président sortant Idriss Déby Itno, qui brigue un cinquième mandat. En début de soirée, les bérets rouges de la garde présidentielle étaient très présents au carrefour de la capitale N'Djamena. J'ai joint ce matin à N'Djamena Mahamat Dingadimbaï, coordonnateur de la coordination des associations de la Société civile pour la défense des droits de l'homme, qui a déployé des observateurs sur tout le territoire.
La CACIDO a couvert toute l'étendue du territoire national avec des observateurs nationaux. Nous avons déployé 3000 observateurs sur tout le Tchad, dont 500 pour la ville de N'Djamena. Eh bien, le constat fait, c'est que les élections se sont déroulées dans le calme et la tranquillité. Et la première des choses également à observer, c'est que les Tchadiens sont sortis massivement. Et lors du dépouillement d'hier soir, nous avons constaté un très fort taux de participation de la population, ce qui augure la crédibilité de ce scrutin présidentiel. Bon, il y a également le constat, l'ouverture des bureaux de vote, qui dans beaucoup de bureaux de vote, pour des moyens logistiques, le bureau a été ouvert avec un léger retard, ou parfois un grand retard par-ci, mais qu'à cela ne tienne, les Tchadiens ont pu voter vraiment massivement. Bon, nous avons également relevé des bulletins nuls. Donc, il y a un problème de sensibilisation qui reste à faire au niveau des citoyens pour que, franchement, les gens puissent dorénavant bien comprendre la méthodologie de vote à bulletin unique.
Il a été cependant constaté par certains que dans des zones plutôt favorables à l'opposition, il n'y aurait pas eu assez de bulletins de vote. Est-ce que vous avez pu le constater?
C'est pas seulement dans les zones où on peut appeler cela fief de l'opposition, mais je pense que de par les constats que nous avons eu à le faire, c'est de cas isolés, des bureaux de vote il y a, manque des bulletins. Et là également, nos observateurs ont relevé cela et ont joué également un rôle important au niveau du président de la Commission électorale nationale indépendante au niveau des régions pour que nous puissions avoir rapidement des solutions.
Est-ce qu'il a été noté, notamment dans certains quartiers de la capitale, des problèmes de vote multiples?
Nos observateurs ont eu à relever, je pense que tout cela. C'est vrai qu'il y a eu quelques tentatives très isolées, c'est-à-dire de fraude, mais je pense que la population, automatiquement, c'est les gens qui sont au niveau du bureau de vote, ont eu à circonscrire et la solution est trouvée immédiatement.
Pour quand peut-on s'attendre à des premiers résultats partiels?
Oui, bon, le code électoral donne un délai de 15 jours au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Mais je pense que la CENI, si un travail de logistique est fait très rapidement, je pense que à moins d'une semaine, au moins, on peut déjà avoir une idée sur les résultats. Et les grandes tendances, je pense qu'on peut même les avoir dans les 2, 3, 4 jours.
Mahamat Dingadimbaï est le coordonnateur de la CACIDO, la coordination des associations de la société civile pour la défense des droits de l'homme au Tchad.
VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, 24 heures sur 24, 93.1 FM.
En République du Congo, la ville de Kinkala a repris ses activités perturbées par les bombardements à Soumouna, à une trentaine de kilomètres de là. La population de Soumouna, qui avait fui à Kinkala, demande à regagner son village. Nguelan Goussou, notre correspondant à Brazzaville, s'est rendu à Kinkala.
Brazzaville, place de l'amitié. c'est la gare routière des bus qui vont à Kinkala, chef-lieu du département du Poul. Pas assez de monde ce matin pour emprunter le transport, malgré les appels du contrôleur. Mais avec un peu plus d'effort, le bus est rempli, 18 passagers ont pris et le chauffeur peut démarrer pour Kinkala. À mi-chemin, le village Soumouna, une centaine d'habitants. C'est ici que les hélicoptères sont venus bombarder mardi. Sinistre total, pas même une ombre de chat. Toutes les cases bien debout restent fermées, tout comme l'école du village. Les populations sont enfouies à Kinkala, à une trentaine de kilomètres. Le fief du pasteur Ntoumi a bel et bien été mitraillé, mais pas rasé. À l'hôpital de Kinkala, aucun mort, encore moins de blessés, n'est arrivé aux urgences.
Oui, on reçoit les malades, mais pas les blessés. Les blessés graves, je n'ai jamais vu un blessé ici. Non, aucun blessé.
Nous sommes ici à l'hôpital de Kinkala. On n'a pas reçu les blessés le jour du bombardement de Soumouna, Nguela et Consol. On n'a pas reçu les blessés. Nous sommes là, tous les jours nous travaillons.
Dans la capitale du Poul, la piscose des populations commence à baisser, car il y a seulement quelques jours, les bombardements sur Soumouna leur parvenaient encore.
Oh, j'ai peur, mais que voulez-vous que je fasse? L'opposition et la majorité doivent s'entendre parce que ce n'est pas bon ce qui se passe. Nous tous sommes des Congolais, pas des étrangers. Hein. Donc ça nous fait mal beaucoup.
Lieutenant Simplice Désiré Nsomi Bansimba, chef de brigade de la gendarmerie de Kinkala, dont la juridiction s'étend jusqu'à Soumouna, rassure.
Je peux vous dire qu'en ce net moment, le climat sécuritaire de Kinkala est calme et apaisé. Les institutions étatiques fonctionnent normalement, sans entrave, et la population est en train de vaquer à ses occupations routinières. Bon, en ce qui concerne la situation de Soumouna, qui est dans ma zone de responsabilité, je venais même de recevoir le chef du village de Soumouna. Bon, en fait, il est venu poser des doléances parce que, avec sa population, ils se sont concertés. Ils pensent que là-bas, le calme est revenu, ils veulent le repartir.
Malgré la vague d'arrestation des jeunes et la forte présence militaire, Kinkala vit sa paix, le marché et le transport urbain fonctionnent. D'après plusieurs témoins, les bombardements se sont poursuivis vendredi sur Mayama et Luomo. Les premières vagues de population fuyant ces attaques arrivent déjà à Brazzaville par le Pékam Filou, après avoir marché de dizaines de kilomètres dans les forêts et les savanes. De retour de Kinkala, Nguela Ngusu, VOA Afrique.
Au Mali, les journées de réflexion sur l'intégration des ex-combattants dans l'armée se sont terminées hier à Bamako. À l'ouverture de cet atelier le 7 avril, le ministre de la Défense avait lancé une mise en garde pour éviter un recrutement au rabais. D'après l'accord de paix, des membres des groupes armés devraient être intégrés au sein de l'armée. Idriss Fall a demandé au ministre malien de la Défense, Tiemann Hubert Koulibaly, combien d'hommes seront intégrés.
Combien d'hommes vont intégrer, ça dépend de ceux qui pourront passer l'ensemble des étapes. Il y a un processus DDR en cours dont l'intégration est un des volets suite au cantonnement. D'abord recueillir la liste de ceux qui ont pour volonté de continuer à servir dans le métier des armes. On va dire qu'il y a les forces de défense et les forces de sécurité. Il y a certainement aussi des corps paramilitaires. Maintenant, il y a tout un processus qui va des épreuves physiques, des étapes médicales, ceux qui seront aptes sur la base des critères ordinaires de sélection et de recrutement dans l'armée seront formellement identifiés pour servir. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous donner un chiffre.
Comment pourra-t-on éviter les erreurs du passé? Parce qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui avaient fini par retourner leurs armes contre le Mali.
Oui, bien sûr. Les erreurs du passé font partie des éléments d'analyse et de discussion de cet atelier de réflexion initié par le ministère de la Défense. Par ailleurs, cette remarque est d'autant plus importante à faire que la crise qui nous a occupés depuis, enfin on va dire 2012, mais sinon c'est une crise qui a commencé un peu avant, est différente des rébellions des années 90 ou celles d'avant. Cette fois-ci, nous avons affaire à des mouvements terroristes, nous avons affaire à des narcotrafiquants, nous avons affaire à des individus qui se servent du prétexte religieux pour s'engager dans des aventures de violence. Donc tout ça nous amène à être extrêmement prudents, à avoir des méthodes très rigoureuses pour faire en sorte que ceux qui vont être retenus pour servir sous les drapeaux soient d'abord des Maliens, il n'y aura pas d'étrangers. Et deuxièmement, ceux qui vont être là ne doivent pas souffrir d'une quelconque procédure judiciaire pour crime de sang ou pour narcotrafic. Et puis, ne doit pas faire partie des fichiers de ceux qui sont identifiés comme étant des terroristes.
Si on intègre, ça va augmenter les troupes. Donc, ça va coûter de l'argent. L'argent va venir d'où?
Mais le Mali s'occupe de son armée. Ceux qui vont être intégrés dans l'armée seront des effectifs maliens, ma foi, qui émargeront sur le budget national, comme cela se fait dans tous les pays. Cela dit, le processus d'insertion économique et sociale va être soutenu par la Banque mondiale, et d'autres partenaires, de manière à ce que ceux qui ne seront pas retenus ou ceux qui ne voudront pas continuer dans le métier des armes donnent une autre orientation à leur vie, seront aidés pour cela. Mais les militaires, sur la liste des effectifs des forces de défense et de sécurité du Mali, émargeront au budget national.
C'était le ministre malien de la Défense, Tiémane Hubert Koulibaly.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
En Guinée, l'opposition ne veut pas que l'UFR, parti de l'ancien Premier ministre Sidya Touré, soit parmi ses représentants au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Le rapprochement de celui-ci avec le président Alpha Condé en est la raison. Les partis politiques issus de l'opposition républicaine viennent de suspendre leur participation aux activités de la CENI. Voici un reportage de Zakaria Camara à Conakry.
On est de l'opposition ou de la mouvance ? Argument de l'opposition républicaine guinéenne depuis la nomination de Sidya Touré au poste du haut représentant de chef de l'État. Le président de l'UFR travaille avec le gouvernement, un choix qui provoque des réactions au sein de la classe politique. Mais Saïkou Yaya Barry, député de l'UFR, affirme que son parti tient à garder sa position.
Nous nous sommes entendus sur une méthode de travail et nous sommes d'accord avec eux, nous devons revoir cette loi. Mais en attendant, nous devons garder nos positions au niveau des démembrements de la CENI.
L'UFR veut garder ses représentants au sein des démembrements de la CENI. Mais les autres partis de l'opposition n'entendent pas de cette oreille. Ils ont suspendu leur participation aux activités d'installation de démembrement. Aboubacar Sylla, porte-parole de l'opposition républicaine.
Nous avons donc décidé de suspendre pour le moment notre participation à tous les démembrements de la CENI jusqu'à ce que cette question de droit soit résolue.
L'annonce du retrait de l'opposition des démembrements de la CENI fait débat dans les rues de Conakry.
C'est bon pour l'opposition, mais ce n'est pas bon pour le pouvoir. Je pense que l'UFR a deux choix. Soit il est du côté du pouvoir, soit il est du côté de l'opposition.
Ce pouvoir en place, réellement, ne veut donner aucune chance à cette opposition pour enfin obtenir une place de choix et de poids dans le pays.
Il y a un accord qui est signé, que chaque parti s'investisse pour le respecter. Mais généralement, dans notre pays, on assiste à des violations répétées d'accords signés entre le pouvoir et l'opposition.
La Commission électorale nationale indépendante a déployé ses commissaires dans le pays pour valider les listes de démembrement des CPI et CSPI. Maître Amadou Salifou Kébé, porte-parole de l'institution, précise.
Si c'est une liste de l'opposition où il n'y a que, par exemple, le chef de file, l'UFDG, sur la liste, nous la rejetons purement et simplement. Parce qu'une tendance politique ne peut pas être constituée d'un seul parti.
Selon un chronogramme proposé par la CENI, les élections locales en Guinée doivent se tenir en octobre prochain. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
Et ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Michel Joseph et avec vous à la présentation, c'était Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com pour l'info 24h sur 24. Bon lundi à toutes et à tous.